Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Gabriel Oliver Aguillon.
Notre invité ce matin, Denis Podalydès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédien, écrivain, metteur en scène, sociétaire de la Comédie Française et vous êtes actuellement au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 28 novembre dans une pièce, La disparition du paysage, une pièce écrite par Jean-Philippe Toussaint pour vous, un monologue, donc vous êtes seul en scène. Il vous a fait don de ce texte. Quelle est la genèse de ce projet?
Un jour, j'ai reçu un appel où j'ai reçu un mail de Jean-Philippe Toussaint que j'avais déjà enregistré. J'avais enregistré un petit livre qui s'appelle Football, qui est une merveille. Et il m'a appelé pour qu'on se voit à Paris. Il voulait me donner un texte. Et il m'a donné ce texte sous forme tapuscrite en me disant, voilà, j'aimerais bien que vous le jouiez un jour. Et j'ai reçu ça un peu comme une mission. Je l'ai lu et je trouvais que ça n'était pas simple à réaliser au théâtre. Et puis, petit à petit, l'idée s'est formée et j'ai eu le désir de rencontrer le metteur en scène Aurélien Bory, parce qu'il m'a semblé qu'il fallait un espace inédit pour ce texte. C'était une intuition comme une autre. Et par l'intermédiaire d'Olivier Mantei, directeur du Théâtre des Bouffes du Nord, j'ai rencontré Aurélien. Et nous sommes entendus tout de suite. C'était très, très rapide.
Vous n'aviez jamais travaillé ensemble?
Non, jamais. Donc on s'est rencontrés au Café Français, place de la Bastille. Et puis il s'est mis à griffonner des petites choses. Et on a parlé. Et puis voilà. Et ensuite, ça n'a été qu'un dialogue permanent. Une entente très grande dont je suis extrêmement heureux.
On va peut-être raconter un petit peu l'histoire de ce texte. La disparition du paysage, en tout cas. C'est celle d'un homme face à sa vie, sa mort, qui est immobilisé dans un fauteuil roulant, devant une grande fenêtre qui donne sur la plage d'Ostende en Belgique, victime d'un attentat. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? En tout cas, il est seul devant le monde. C'est un moment aussi qui renvoie vers notre quotidien aussi, peut-être pendant les confinements. On est seul face à ses propres questions, des questions sur l'avenir plus ou moins proche
d'un homme
qui est seul.
Qui est seul, seul à l'intérieur de son crâne, on pourrait dire, seul dans un corps qui semble avoir abandonné, qui n'a plus de mobilité, et en proie à des visions, des sensations, des réminiscences qui ne sont jamais, dont il n'est jamais vraiment sûr. Il a en face de lui un paysage dans lequel soudain se superposent des visions, en fait, et comme c'est un écrivain, il a l'impression d'avoir que c'est quelque chose qu'il a écrit, que ce qu'il a en face de lui correspond à ses sensations. Il doute savoir s'il a une réalité en face de lui ou s'il n'a que le contenu de ses pensées, de ses émotions. Donc c'est un style petit à petit, un doute et aussi une amnésie, puisqu'il essaye de remonter, de savoir depuis quand il est dans cet endroit.
Oui, c'est pas vraiment ce qui s'est passé.
Il y a un oubli, il y a un terme au-delà duquel il n'arrive pas, sa mémoire ne remonte pas. Et tout l'effort, le travail du texte, c'est d'essayer de refaire surgir ce qu'il y a au-delà d'un moment brumeux, après lequel il ne sait plus rien.
Mmh. On écoute un extrait de La disparition du paysage, la voix de Denis Podalydès.
Je suis seul depuis longtemps dans cet appartement, avec ce mur de béton aveugle pour seul horizon. Je n'ai plus aucun repère à présent. Je suis emmuré dans ce tombeau et j'ignore si l'extérieur est devant moi ou au-dessus de moi, et si même il y a encore un extérieur. Alors commence de s'insinuer dans mon esprit le soupçon que la réalité que je suis en train de vivre depuis plusieurs semaines dans cet appartement d'Ostende est une fiction. Tout au moins, une chimère.
une métaphore du drame qui m'a d'abord brisé physiquement avant de s'attaquer à mes facultés mentales. Et que, en vérité, je suis déjà mort. Et cette longue évocation grise et mélancolique de la vue de l'appartement d'Ostend est ma dernière vision consciente, la dernière intuition, le dernier instant visible de ma vie qui s'achève.
Un extrait de La disparition du paysage qui est actuellement au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris jusqu'au 28 novembre avec notre invité ce matin, Denis Podalydès. Un texte de Jean-Philippe Toussaint donc qui a paru en début d'année aux éditions de Minuit et donc là que vous jouez dans une mise en scène d'Aurélien Bory. Qu'est-ce qui vous a séduit dans les idées de la mise en scène d'Aurélien Bory? C'est quelque chose de très sobre.
Oui, c'est tout à fait sobre dans le rendu et c'est très sophistiqué dans l'élaboration, la conception. Ce qui m'a séduit, la première tentation qu'on pouvait avoir avec quand on a un texte monologue, moi la première tentation ce que j'ai, c'est le texte nu, rien d'autre, une présence et puis un texte. Et il me semblait que, à travers l'entrelac de toutes ces sensations, réminiscences, j'étais omnubilé par cet espace devant lequel est le personnage, c'est-à-dire cette vision d'Ostend, où il voit des ciels. Il est condamné. Il dit parfois, j'ai l'impression d'être dans un musée, à force de fixer le grand tableau immobile que j'ai devant moi, où il voit sans arrêt le ciel, la mer, toutes les variations de lumière, les variations aussi de météorologiques. Et il faut faire quelque chose avec ça. Et Aurélien est parti de ça. C'est la fenêtre, donc le cadre de la fenêtre, et à faire en sorte que dans ce cadre, il y ait une quantité de petits phénomènes, parfois à peine perceptibles, et qui non pas qui illustrent le texte, mais qui accompagnent le texte et qui créent des chocs de sensations entre l'écoute du texte et ce qu'on voit. Donc c'est une sorte d'alchimie, et vous avez en fait comme des formations nuageuses, des formations moléculaires. C'est quelque chose qui est proche de la physique et qui se passe sous les yeux du spectateur, qui fait que l'idée de ça, c'est que le spectateur ait à peu près une expérience semblable à celle du narrateur.
Une sorte de brouillard comme ça ou qui appelle à l'imaginaire.
C'est ça. C'est une vraie brume d'ailleurs. C'est pas de la fumée. C'est tellement fait de façon subtile que les gens croient que c'est une vidéo. Ce n'est pas du tout une vidéo.
C'est vrai.
C'est une brume qui est produite. Donc c'est très humide derrière. Et ensuite, dans un deuxième moment du spectacle, je vais dans cette brume.
L'importance de l'imagination pour s'élever. C'est aussi un des points de de cette pièce.
En fait, c'est ça. Le personnage, il est tout le temps entre la vision d'une réalité et l'imagination de cette réalité. Et il ne sait plus du tout s'il a affaire à la réalité réelle ou à la réalité pure et simple de son imagination. Quel moment est-il en train de vivre? Est-il dans un moment dilaté, un moment long, ou est-il dans un moment unique? Et on ne le sait véritablement, la réponse à ça. Il y a une enquête policière un peu pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis là? Et on va comprendre effectivement qu'il y a un attentat, qui est un attentat réel, d'ailleurs survenu le 22 mars 2016 à Bruxelles.
Effectivement, on est donc entre l'intérieur, l'extérieur, la fascination aussi face à l'extérieur, ce qui se passe en dehors, en dedans. Vous qui êtes comédien et aussi metteur en scène, est-ce que vous avez été tenté ou vous avez participé activement avec Aurélien Bory à tout ça ou vous vous êtes laissé guider?
Alors je me suis laissé absolument guider parce que quand on est dans un fauteuil roulant et qu'on est même un moment de dos, on peut pas du tout, on ne contrôle pas forcément ce qui se passe dans la boîte scénique. Et puis j'ai une confiance totale en Aurélien, mais on a énormément conversé. Je lui fais part de toute idée que je pouvais avoir, de tout sentiment, dans une conversation générale et amicale et très 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 nourri de ce qui émanait du texte.
De Jean-Philippe Toussaint. La pièce a été plusieurs fois annulée pour cause de crise sanitaire, et puis elle a été créée en mars dernier au Théâtre National du Luxembourg. Il y a eu des évolutions depuis ?
Oui, ben on l'a joué 4 fois. Oui, il y a eu des évolutions, et j'espère qu'il va y en avoir encore.
Ah oui, d'ici le 28 novembre.
C'est pas des évolutions techniques, c'est la conception du spectre. C'est vraiment, alors là, dans l'interprétation, pratiquement.
Donc moi, c'est sur vous.
Oui, parce qu'il faut que je progresse encore. Je l'entends. J'ai des progrès à faire. C'est la, comment, c'est
vous l'avez entendu, là, par exemple, avec ce qu'on a écouté?
Oui. Je sens que c'est aussi, la grande difficulté, c'est se détacher du littéraire pour accéder d'une certaine manière au théâtral et en même temps maintenir la puissance de la forme littéraire. Et donc il y a une simplicité et un rendu, comment dire, un rendu émotif, je ne sais pas exactement comment dire. Moi, l'idéal, c'est que le spectateur soit au plus près de l'expérience concrète, qu'il puisse s'identifier totalement. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont dit que ça faisait penser au confinement, parce que le personnage est enfermé dans ce lieu-là. Alors effectivement, ça faisait, mais c'était pas du tout voulu dans le texte, évidemment, puisque c'était écrit bien avant. Mais cette claustrophobie et cette difficulté à mettre des noms sur des sensations, il y a une quête proustienne là-dedans, une quête d'un temps perdu, d'un temps même dispersé, dilapidé, et aussi une réflexion sur être au plus près du moment de mourir. Mais pas vu absolument pas d'une façon pathétique d'ailleurs. Je dois aussi chasser tout pathos, mais j'en ai peut-être encore des moments où j'y succombe, de façon à s'approcher au plus près d'une sorte d'expérience clinique, physique, du moment. Qu'est-ce que c'est que le tout dernier moment ?
L'ouverture de la Clémence de Titus de Mozart sur France Musique ce matin, interprétée par le Cercle de l'Harmonie, l'ensemble Aedes pour cette production dirigée par Jérémy Rohrer, qui a été enregistrée en direct au Théâtre des Champs-Élysées à Paris en 2014. Et vous, Denis Podalydès, vous étiez à la mise en scène de cet opéra puisque vous faites ça également.
Oui.
Et ce n'est pas la première fois.
Non, mon premier opéra, c'était Fortunio de Messager, dirigé par Louis Langret, qui est le nouveau directeur de l'Opéra Comique.
Oui.
Et nous avions fait ce Fortunio ensemble avec un immense plaisir.
Et que vous aviez repris d'ailleurs.
Et repris en 2019, voilà. De nouveau avec Louis, avec une autre distribution. Et c'était un travail réjouissant à faire. Et ça m'a totalement passionné. Moi qui n'y connais rien en musique. C'est Louis Langret m'a quand même appris à lire une partition.
Vous êtes mis au solfège.
Je me suis mis un peu au solfège et puis après d'année en année maintenant je suis vraiment avec un doigt quelquefois. J'aime beaucoup faire ça, écouter les chanteurs et avec mon doigt suivre les notes. Puis au bout d'un moment je suis complètement noyé. Je l'ai fait de ma dernière mise en scène, enfin qui aurait dû être faite au printemps 21 ou 20, je sais plus, qui est Falstaff, que je ferai en 23 à l'Opéra de Lille.
Et puis, il y a eu le conte Horry de Rossini aussi avec oui. Julie Fuchs à l'Opéra Comique en 2017. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans la mise en scène d'opéra? Est-ce qu'il y a une... Comment vous décririez ce que vous faites dans les mises en scène d'opéra?
Je ne sais pas du tout. J'essaye de travailler avec les chanteurs comme s'ils étaient des acteurs, tout à fait. Alors qu'au début, je mythifiais tant le chanteur, je le voyais comme une créature qui était pour moi d'un autre monde, d'une autre chair. Et finalement...
C'est des gens normaux.
On confie plutôt des opéras très dramatiques, ou voire des comédies dramatiques, ou des même bouffes, comme le conte Horry. Et donc... J'essaie ni plus ni moins de raconter l'histoire avec les chanteurs, avec la musique, de me servir de tout et de les nourrir de la situation, de leur inspirer des idées, des sentiments, les rendre assez autonomes aussi en tant qu'acteurs. Voilà, on essaie de faire du théâtre.
La mise en scène, vous en parlez aussi beaucoup dans votre livre, puisque oui, vous êtes écrivain et vous êtes l'auteur d'un livre paru le 14 octobre dernier aux éditions du Seuil, « Les nuits d'amour sont transparentes pendant la nuit des rois », donc cette pièce de Shakespeare. Vous racontez un peu les coulisses de cette pièce donnée en 2018 à la Comédie Française, dans laquelle vous, Denis Podalydès, vous jouez le rôle du duc Orsino, mise en scène de façon assez cocasse mais aussi profonde par Thomas Ostermayer. C'était l'envie de dévoiler les coulisses, justement, dans ce livre.
Essayer, pour moi aussi, de comprendre le grand art de ce metteur en scène, parce que je me disais, mais je n'arrive pas à voir comment il fait. Je vois les acteurs se transformer, je vois les sentiments apparaître, à fleur de peau, de voix, je vois les situations prendre, devenir de plus en plus claires, saillantes, la beauté naître, tout simplement. Et je voulais essayer de suivre ce parcours, d'écrire, de mettre des phrases là-dessus, et ainsi aussi de révéler l'art de mes camarades, de faire des portraits d'eux. Noter tout ce qui se passe en répétition, c'est totalement passionnant parce qu'en fait, c'est un monde. On pourrait écrire des livres entiers. Et parfois, la merveille, c'est d'attendre simplement. Et de décrire ce moment d'attente où même un metteur en scène, parce que Thomas est un metteur en scène si délicat, il ne force rien. Il met les acteurs dans un état de disponibilité à eux-mêmes, au texte, à la situation, à leur personnage. Et avoir le courage, la patience d'attendre que ça surgisse.
Vous dites dans le livre, il y a beaucoup d'humilité aussi. Vous décrivez vos désirs, vos idées de mise en scène précisément sur la nuit des rois, de ce que vous auriez fait éventuellement. Et puis vous êtes en fait conquis par la vision de la pièce de Thomas Ostermayer.
Oui, alors c'est pas une concurrence comme ça entre ma mise en scène rêvée. Au contraire, je dis dans un texte qui s'appelle « Je suis acteur décidément », j'avais toujours rêvé de monter la nuit des rois, puis ça s'est jamais fait. Par presque des hasards comiques, en rencontrant Thomas Ostermayer, j'ai oublié mon propre, enfin, je l'ai mis de côté pour m'abandonner au sien, qui me semblait tellement plus intéressant que le mien, je dois le dire. Et le livre est un peu la tombe de ce projet. Je pense que je l'ai pas fait parce qu'il était trop fantasmatique. J'ai une propension à rêver et à fantasmer les choses que je ne me donne pas les moyens de les réaliser concrètement.
Vous vous dites, je me fais rire en pensant que j'ai plus appris sur la pièce en 3 heures de travail avec lui qu'en 20 ans de lecture et de rêverie solitaire.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez appris à ce moment-là, Denis Podalydès?
J'ai appris aussi la dimension politique de la pièce. Et c'est une pièce d'amour et c'est une pièce qui... Parce que ça se passe dans des états déliquescents. Et la question de l'amour, posée de la manière dont Thomas la posait, a une ampleur politique. Parce que l'amour, c'est souvent ce qui... détruit aussi les rapports, ce qui menace le pouvoir. Parce que le personnage d'Orsino que je joue, c'est, en principe, c'est un roi, c'est un dirigeant. Il devrait parler en monarque, il devrait agir en roi. Et non, au lieu de prendre la parole publique, de dire les choses du pouvoir, il confesse une faiblesse amoureuse, un désir malheureux, une mélancolie. Donc il fait absolument pas ce que... Imaginez un jour Macron qui prend la parole en disant « Je suis désespérément amoureux, je sais pas quoi faire. »
Je suis perdu.
Il est impossible que le monarque ait une parole aussi intime.
Intime, ça revient sur les lettres intimes qu'on entend dans la pièce qui est actuellement au Bouffe du Nord de Jana Tchèque. Et puis là, pour la musique de cette pièce que vous avez donnée, donc, que vous décrivez beaucoup, en tout cas pour les coulisses de La Nuit des Rois de Shakespeare, mise en scène par Thomas Ostermayer, il y a Monteverdi.
Thank you.
La voix de Montserrat Figueras, accompagnée par la Capella Real de Catalogne, dirigée par Jordi Savall, dans cette deuxième partie du Lamento della Ninfa de Monteverdi, Amor, ce madrigal du livre 8, que l'on entend dans La Nuit des Rois ou Tout ce que vous voulez de Shakespeare, mise en scène par Thomas Ostermayer. C'était en 2018. Denis Podalydès, vous êtes notre invité, et justement dans votre livre qui vient de sortir, Les Nuits d'Amour sont transparentes, où vous décrivez les coulisses de cette mise en scène, de cette représentation. Vous vous rappelez donc ces moments musicaux?
Oui, parce que je commençais la pièce avec ça. La pièce commence par ce vers très célèbre. Si la musique alimente l'amour, alors jouez. Et que dès le premier vers, la musique et l'amour sont liés dans le poème dramatique. Et ensuite, le personnage d'Orsino se gave de musique pour essayer de se dégoûter de l'amour. C'est comme s'il voulait manger de la musique, arriver à un point de dégoût, et ça lui permettrait d'évacuer l'amour, de le vomir presque. Et donc c'était dans la mise en scène, c'était le Lamento della Ninfa, qui était cette musique que je faisais reprendre et reprendre encore, et ça commençait le spectacle.
Est-ce que les textes de théâtre peuvent être comparables selon vous à la musique, à une partition?
Parfois. Je dirais que les textes en vers, ils suscitent leur propre musique. Ça veut pas dire qu'il faut les jouer en musique, ils sont une forme musicale. Et on peut envisager aussi qu'il y a une certaine musique. Ça veut pas dire... parce qu'il y a des acteurs qui vous diront « Non, non, surtout pas, c'est surtout pas de la musique, c'est de la vie, c'est de l'émotion. » Mais je crois que oui, il y a de la musique là-dedans.
Je rappelle, Denis Podalydès, la sortie de votre livre « Les nuits d'amour sont transparentes » pendant la nuit des rois, paru aux éditions du Seuil. Et puis actuellement, vous êtes depuis hier soir au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris jusqu'au 28 novembre pour la pièce « La disparition du paysage », une pièce écrite par Jean-Philippe Toussaint pour vous, Denis Podalydès, et mise en scène, une belle idée que vous avez eue, mise en scène d'Aurélien Bory. Un grand merci d'avoir été avec nous. Bonne
merci
journée.
Merci à vous. Bonne journée.
Autre danger de nazi, un soldat qui rentre chez lui. Quinze jours de congé qu'il a, marche depuis longtemps déjà.
Que c'est du bon marché, il faut tout le temps l'accorder.
La voix de Denis Podalydès dans le rôle du soldat, dans l'histoire du soldat d'Igor Stravinsky, accompagné par l'ensemble instrumental dirigé par Jean-Christophe Gaillot.